confiance. Mais disons que maintenant, vous m'aidez à rester humble. Voilà. Peuple gaulois, vous avez bien fait d'être là ce matin. Vous me voyez ainsi devant vous comme Nabucodonosor, roi du plus grand royaume que cette terre ait porté. Je me dois toutefois d'être honnête avec vous, envers le Très-Haut, envers moi-même. Ce royaume m'a été accordé par la volonté du Très-Haut. Et je refuse désormais de m'en attribuer seul le mérite. Ma position sur le sujet a, disons-le, récemment quelque peu évolué. Je veux vous raconter, et c'est l'objet de ma présence ce matin, ce que le roi des cieux a fait envers moi. Voilà peu de temps que mes conseillers m'ont rappelé auprès d'eux. En effet, bien que roi des Chaldéens depuis longue date maintenant, pendant un temps, le Très-Haut m'a retiré la royauté, comme ça. Plus encore, il m'a rendu tel un animal sauvage, dépouillé de tout, n'ayant que de l'herbe pour nourriture et que le ciel au-dessus de ma tête. Quelle épreuve pour moi qui n'ai jamais connu que l'opulence, que la vie dans un palais royal. Jamais je n'aurais imaginé qu'un être, cela-t-il même un dieu, ne puisse me retirer et me redonner mon pouvoir de roi avec tant de facilité. Tout de même, je veux dire, excusez du peu, je ne suis pas comme vous, je ne suis pas du petit peuple. Je suis Nabucodonosor, roi de l'Empire de Babylone, de père en fils. Mon père, Nabopolassar, était roi, il m'a fait hériter de cette charge, à qui d'autre de toute façon, charge que je donnerai, bien entendu, à mon fils, Amel-Marduk, à ma mort. C'est ainsi. Je vous le dis et je le reconnais maintenant, le pouvoir du Dieu Très-Haut doit être grand pour jouer ainsi de mon statut de roi. Quel pouvoir a celui qui peut, comme ça, m'ôter la royauté ? J'ai quand même une question qui me taraude. Le Très-Haut, possédant une telle puissance, possédant une telle grandeur, ferait-il un bon roi à ma place? C'est bien beau d'avoir le pouvoir. Encore faut-il savoir l'utiliser à bon escient, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez vu la taille de mon royaume? Est-ce que vous avez dénombré le nombre de cultures différentes qui sont présentes à Babylone? Moi, je dois être sage, je dois être juste dans la gouvernance d'un peuple aussi grand et aussi divers. Daniel, lui, n'a de cesse de louer la sagesse de son Dieu. Mais ferait-il un bon roi? À ce propos, mes conseillers m'ont rapporté qu'il y a 2 semaines, il me semble, vous a été rapporté le contenu de mon précédent rêve. Vous savez, celui avec la statue immense, avec une tête d'or. Mon fidèle conseiller Daniel m'en avait fait l'interprétation. Vous avez donc entendu que d'après ce rêve, 4 royaumes se succèdent, le premier d'entre eux étant le mien. Daniel m'a expliqué qu'un 5e et dernier royaume viendra. Il supplantera les 4 premiers et ne s'achèvera pas. Ce royaume est celui du Dieu des cieux. Je vous le dis, et croyez-en mon expérience de roi, un royaume qui veut durer éternellement a besoin d'un roi doué d'une puissance, d'une sagesse et d'une justice infinie, dépassant largement celle de tous les hommes gouvernants que cette terre ait portée. Alors pour moi-même, ayant vu à l'œuvre la puissance de ce Dieu, du Dieu de Daniel, peut-être que ce Dieu est aussi sage et juste qu'il n'est puissant. La longévité de ce royaume nous donnera la preuve de cela. Si ça dure, c'est que c'était bien. Je laisse donc cette question aux générations futures. Je ne serai plus là, et vous non plus peut-être. Reprenons donc mon histoire. Donc, me voici de nouveau roi. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Toute cette histoire avait commencé, encore une fois, par un rêve. Voici quelles étaient les visions de mon esprit pendant que j'étais couché sur mon lit. Je regardais et voici ce que j'ai vu. Au milieu de la terre se dressait un grand arbre, dont la hauteur était immense. L'arbre grandit et devint vigoureux. Son sommet atteignait le ciel, et l'on pouvait le voir depuis les confins de la terre. Son feuillage était magnifique et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tout être vivant. Les animaux sauvages venaient s'abriter à son ombre, et les oiseaux se nichaient dans ses branches. Tous les êtres vivants se nourrissaient de ses produits. Alors, pendant que sur mon lit, je contemplais les visions de mon esprit, je vis apparaître un de ceux qui veillent, un saint, qui descendait du ciel. Il cria cet ordre d'une voix forte. « Abattez l'arbre, coupez ses branches, arrachez son feuillage et dispersez ses fruits !» et que les animaux s'enfuient de dessous lui, et que les oiseaux quittent ses branches. Laissez cependant dans la terre la souche et ses racines. Mais liez-les avec des chaînes de fer et de bronze, au milieu de l'herbe des champs, qu'ils soient trempés de la rosée du ciel, qu'ils se nourrissent d'herbe avec les animaux. Il perdra la raison et se comportera non comme un homme, mais comme un animal. Jusqu'à ce qui est passé 7 temps. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que tous les vivants sachent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il accorde la royauté à qui il veut et qu'il établit roi le plus insignifiant des hommes. J'ai donc narré ce rêve à Daniel tel que je viens de vous le faire. Pardon, avant ça. Suite à ce rêve, ayant une armée de mages à ma disposition, je leur ai demandé de m'expliquer ce rêve. Un fiasco. Quelle bande d'incapables. À se demander pourquoi je les garde. Mais bon, ils étaient là. Bref. Comme pour le précédent rêve, c'est Daniel qui a sauvé la mise. Fidèle à lui-même, plein de modestie, il en attribue tout le mérite à son Dieu, au roi des cieux. Ce que, finalement, je lui accorde volontiers. J'ai donc narré ce rêve à Daniel, tel que je viens de vous le faire. Au début, Daniel ne disait rien. J'ai bien cru qu'il allait se ranger à la vie générale, et me laissait bien en peine de comprendre quoi que ce soit à ce rêve. Tout au contraire. Le Très-Haut, le Dieu de Daniel, était à la manœuvre. Depuis le début, il avait très bien expliqué ce rêve à mon serviteur. Ce dernier savait bien que ce qu'il avait à me dire n'allait pas du tout me plaire. Alors il commença ainsi. « Monseigneur, je souhaiterais que ce songe s'applique à tes ennemis. » Moi aussi, j'aurais préféré. Mais bon, comme dit l'expression, un mal pour un bien. Daniel poursuivit. Tu as vu grandir et se développer un arbre dont la cime touchait le ciel et que l'on voyait de toute la terre. Cet arbre, au feuillage touffu et aux fruits abondants, fournissait de la nourriture pour tous les êtres vivants. Les animaux sauvages venaient s'abriter sous lui, et les oiseaux nichaient dans ses branches. Cet arbre, ô roi, c'est toi. Car tu es devenu grand et puissant, ta grandeur s'est accrue, elle atteint jusqu'au ciel, et ta domination s'étend jusqu'aux confins de la terre. Le roi a vu ensuite l'un de ceux qui veillent, un saint, descendre du ciel et crier « Abattez l'arbre et détruisez-le, laissez toutefois en terre la souche avec ses racines, mais liez-la avec des chaînes de fer et de bronze dans l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il partage le sort des animaux sauvages jusqu'à ce que 7 ans aient passé. » Voici ce que cela signifie au roi. Il s'agit là d'un décret du Très-Haut prononcé contre Monseigneur le Roi. On te chassera du milieu des humains et tu vivras parmi les bêtes sauvages. Tu te nourriras d'herbes comme les bœufs et tu seras trempé de la rosée du ciel. Tu seras dans cet état pendant 7 temps, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est le maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui lui plaît. Mais si l'on a accordé de préserver la souche avec les racines de l'arbre, c'est que la royauté te sera rendue dès que tu auras reconnu que le Dieu des cieux est souverain. C'est pourquoi, ô roi, voici mon conseil. Puisses-tu juger bon de le suivre? Détourne-toi de tes péchés et fais ce qui est juste. Mets un terme à tes injustices. Peut-être ta tranquillité se prolongera-t-elle. Fort bien d'avoir compris désormais le message que le divin voulait me faire passer, je n'ai pas changé grand-chose. Après coup, je vois bien que Daniel avait raison. Il m'avait prévenu, détourne-toi de tes péchés et fais ce qui est juste. Moi, je n'ai pas changé mon comportement. J'imagine que ne serait-ce que pour me rassurer, je ne dois pas être le seul à faire preuve d'une certaine lenteur à la mise en pratique des exhortations du Dieu des cieux. Si je me souviens bien, environ un mois après cet épisode onirique, j'ai eu une phrase malheureuse. N'est-ce pas la Babylone, la grande que moi j'ai bâtie pour en faire une résidence royale? C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. Avant même que je ne puisse en dire plus, le rêve s'est réalisé, comme indiqué par Daniel. Plus de royauté, plus rien à manger. J'étais chassé du palais, sans toit au-dessus de ma tête. Quand le Dieu des cieux a entendu cette phrase, j'imagine qu'il a retenu « moi, blablabla, moi, blablabla, moi ». L'orgueil, voilà le souci. L'orgueil est ce que le Très-Haut a jugé bon de corriger chez moi. Alors voilà, après un bon gros coup de pied divin aux fesses, j'ai fini par comprendre. Vaut mieux tard que jamais, n'est-ce pas ? En effet, un certain temps est passé, puis j'ai fini par admettre et reconnaître que mon titre de roi et la grandeur de Babylone sous mon règne sont entièrement à attribuer au roi des cieux. Le roi terrien que je suis n'est que le dépositaire de ce que m'accorde la toute-puissance divine. Depuis que j'ai fait ce constat, je loue le Très-Haut et je lui ai redonné sa place. Non pas seulement celle qu'il mérite, mais celle qu'il a. L'orgueil est pour ma part ce qui me retenait de reconnaître la place du roi des cieux. À mon sens, dans ma vie, il y avait comme une rivalité entre mon estime que j'avais de moi-même et le Dieu de Daniel. Je prenais toute la place et je n'en laissais aucune au Très-Haut. J'étais orgueilleux et je sais que je dois désormais être vigilant sur cette tendance naturelle. Aussi, je ne doute pas que ce soit le seul défaut humain qui puisse retenir l'homme de laisser la place appropriée au divin. La suffisance, le désintérêt de mon prochain, l'égoïsme, l'avarice, la recherche du pouvoir sont aussi, à mon sens, des penchants de notre nature humaine qui peuvent nous retenir de reconnaître le rôle central du Très-Haut dans ce que nous faisons et dans ce que nous sommes. Êtes-vous fier de votre travail ? Soyez fier du roi des cieux. Considérez-vous avoir construit de bonnes relations sociales ? Soyez reconnaissant au Dieu de Daniel pour vos amis. Avez-vous de quoi vous vêtir ? Avez-vous de quoi nourrir votre propre famille ? Soyez généreux envers ceux qui ne peuvent pas faire de ce même constat envers la famille. Êtes-vous détenteur d'une quelconque responsabilité ? Elle vous vient du roi des cieux. Il la donne et il la retire à qui il veut. Recherchez l'humilité plutôt que le pouvoir. Notre vie ne durera pas. Voyez mon âge avancé. Bientôt, je laisserai ma place à mon fils. Quel prestige garderai-je avec moi dans ma tombe ? Le premier rêve indiquait qu'un autre royaume viendra après Babylone et lui succédera. Que restera-t-il à ce moment-là de la Babylone dont je m'attribuais tout le mérite ? Si seulement, plutôt que d'être roi du premier royaume, royaume passager, j'étais simplement peut-être membre du cinquième, celui gouverné par le roi des cieux, celui qui durera éternellement. Ne vaut-il pas mieux œuvrer à construire une sorte de cabane éternelle plutôt qu'un palais babylonien que le temps réduira en poussière ? Daniel ne m'a pas révélé quoi que ce soit que je puisse imaginer faire partie de ce royaume éternel. J'ai profité d'être roi toute ma vie. Savoir que le Dieu de Daniel ait pu m'arracher cela d'un coup, d'un seul, est la preuve que ce que les hommes bâtissent est fragile. Le roi des cieux fait ce qu'il veut de nos efforts. Dans ce monde, En somme, si vous ne deviez garder qu'un seul conseil de ma part, qu'une seule chose de cet épisode de ma vie, interrogez-vous sur la place que vous donnez au roi des cieux dans votre vie, dans votre semaine peut-être, dans votre quotidien. Regardez ce que vous possédez, regardez ce que vous avez accompli. Considérez-vous ces choses comme une récompense pour vos efforts ? Ou comme des cadeaux divins. Alors voilà, je ne vais pas quitter la veste, mais bonjour, je suis Nicolas. Ainsi s'achève cette prédication, cette histoire mettant en scène le roi Nabucodonosor. Elle était donc basée sur le quatrième et dernier chapitre où ce roi est présent dans le livre de Daniel. En tant que chrétien du XXIe siècle, je crois que j'en sais un peu plus que ce roi de Babylone. Comme l'avait expliqué Michael il y a 2 semaines, le cinquième royaume, le royaume éternel, est une promesse que nous a fait Dieu à cause de notre foi en Jésus-Christ. Si nous voulons que nos efforts dans ce monde ne soient pas vains, comme nous pouvons le voir par exemple dans le livre de l'Ecclésiaste, nous devons aller plus loin que simplement la recherche de notre confort et de nos accomplissements sur terre. Nous pouvons œuvrer pour le royaume de Dieu qui lui est éternel. Aussi, je suis persuadé que ce chapitre 4 du livre de Daniel est une histoire de place. Ici, le roi céleste, Nabucodonosor, lui, l'appelle le roi des cieux, remet à sa place le roi terrestre. Et nous ? Quelle est la place de notre Créateur, Sauveur et Seigneur de notre quotidien et dans nos aspirations ? Alors, Nabucodonosor n'aurait pas pu le dire sans anachronisme, mais juste un exemple, une réflexion. Combien de temps passons-nous sur Internet ? C'est derrière cette fenêtre numérique que tout le divertissement est disponible. YouTube, email, Instagram, Facebook, WhatsApp, Netflix, Disney+, etc. Aujourd'hui, avec une bonne connexion Internet, il y a franchement toujours de quoi occuper son esprit. Se remplir la tête pour éviter de penser. Et si on coupait le Wi-Fi ? Et si on se donnait, je ne sais pas, le temps de lire un des livres de la Bible en entier ? Et si on se lançait dans la lecture d'un ouvrage chrétien qui va rebooster notre vie spirituelle ? Faisons de la place à Dieu dans nos vies. Redonnons-lui sa place. Et je vais inviter Anne-Marie à reprendre la mienne.